6h-5. Juste vous dire que beaucoup de commissions scolaires ont déjà annoncé là, des fermetures. Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, commission scolaire de Montréal, ce qui est assez rare pour Montréal, il faut le dire. Là. C'est fermé pour la journée. Commission scolaire de la Vallée des Tisserands, des Samars, des Trois-Lacs, Marguerite-Bourgeois, commission scolaire Riverside. Et là, vous avez toutes les écoles, collèges qui également ont pris cette décision-là. Je regarde rapidement, là, vous avez l'Académie internationale Charlemagne, là, c'est le campus de Longueuil de Sainte-Catherine, Collège Charlemagne, Collège d'Anjou, Collège Reine-Marie, Collège Laval également. Vous avez aussi l'école de Saint-Joseph, commission scolaire, pas commission scolaire, mais le Collège Champagneur qui est fermé. Alors, autant sur l'île de Montréal qu'en périphérie, on a des fermetures ce matin. L'impression que la liste va s'allonger assez rapidement. Consultez le site web de votre école, de votre collège ou encore de votre commission scolaire. Monique, on commence par un cas d'invasion de domicile. Ça s'est passé dans le secteur Hunsic-Cartierville.
Un petit peu avant 3 heures cette nuit, appartement rue Grenet, c'est là que ça se passe. Trois hommes masqués qui sont entrés dans cette résidence-là. Il y a eu bagarre avec l'homme qui était sur les lieux, un homme dans la trentaine. Semble-t-il que les voleurs auraient dit qu'ils voulaient avoir l'argent. Donc, la victime a été frappée, blessée. Sa vie n'est pas en danger, mais on l'a transporté en centre hospitalier où il continue de subir des tests ce matin. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne connaissait pas les trois hommes qui sont entrés chez lui et qu'il ne sait pas pourquoi ils s'en sont pris à lui. Est-ce qu'on a ici affaire à une affaire de règlement de compte ou encore des voleurs qui vraiment sont entrés pour voler de l'argent? On l'ignore pour l'instant, les trois hommes masqués qui ont pris la fuite à pied après l'événement.
Bon, le Journal de Montréal nous rapporte une certaine pratique menée par des avocats de la défense dans des procès avec jury, c'est-à-dire qu'on utilise Facebook pour avoir de l'info sur les différents jurés qui délibèrent.
C'est un dossier fort intéressant et vous allez voir qu'il n'y a pas que les avocats de la défense qui ont déjà tenté le coup et que c'est pas mal plus simple qu'on pourrait penser. Ce qu'il faut savoir au Canada, là, d'entrée de jeu, c'est que les jurés ne peuvent jamais être identifiés, ni pendant le procès, ni après. C'est entre autres pour des raisons de protection, bien sûr, pour pas qu'on intimide ces gens-là et qu'ils puissent juger en ayant vraiment le sentiment qu'ils le font de façon totalement confidentielle. Et c'est là où ça peut jouer également parce que ça pourrait éventuellement ébranler leur confiance. Quand on passe, quand vous allez dans une salle de cours une journée ou deux, dans un procès devant jury, vous allez voir les 12 ou 14 personnes qui sont assises devant vous. De là à les identifier, c'est autre chose. Mais quand vous passez 2, 3, 5 mois en face de ces gens-là, entendons-nous, ça devient des visages qui sont très, très familiers. Et les informations qui sont divulguées en ouverture de procès, parce qu'ils ont des numéros, bon, pour toute la durée du procès, Paul, tu vas être le juré numéro 3, donc on va t'appeler toujours juré numéro 3. Mais on sait de toi quand même, normalement, ton âge, le district judiciaire dans lequel on se trouve, dans ton cas, ce serait par exemple Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et ta profession. Bon, évidemment, là, animateur de radio, tu serais pas admissible sur un membre de jury, mais disons que tu étais bouché, par exemple. Et moi, je pars avec ces informations-là. Et d'ailleurs, nous avions déjà fait le test, quelques journalistes, alors qu'on avait un petit peu de temps à tuer, là, disons-le, lors d'un procès pour meurtre il y a quelques années. Et on avait fait cet exercice-là et on avait quand même assez facilement pu identifier parce qu'on avait évidemment le visage qui nous était commun. Et avec ces quelques informations-là, on avait pu identifier. Et là, c'est parce que ce qu'on a comme information, c'est non seulement le nom de la personne, souvent son employeur. On peut après ça faire des recherches sur l'individu. Et là où ça devient inquiétant, c'est que, et c'est ce que l'article rapporte ce matin, c'est que les avocats de la défense vont s'en servir pour établir un profil. Pas pour les identifier, ça demeure illégal. Ils pourront jamais dire de qui il s'agit. Par contre, et on avait trouvé ça à l'époque, un jury qui partage un article sur la cause avant le procès avec un commentaire subjectif ou non, là, ça peut devenir...
Non, mais pas juste ça. Moi, ce que je trouve plus grave dans ça, c'est que, si ça permet d'identifier... On va donner un exemple. Le procès de Mom Boucher, là, mettons.
Oui.
Toi, t'es membre du jury, puis tu sais que les avocats de Mom Boucher ont réussi à m'identifier.
Tu dors pas bien la nuit.
Pas très agréable.
C'est sûr que... Ouais, absolument. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont chercher un profil et qu'ils peuvent influencer les membres du jury aller toucher leurs cordes sensibles, par exemple, en s'adressant à eux dans une plaidoirie ou autre. Alors,
je pense qu'on va changer bientôt les procédures. Là, on va fermer les cellulaires et probablement pas juste la sonnerie.
Parce qu'il y a toute la question de l'algorithme, effectivement, de la section vous connaissez peut-être. Là, c'est ce qui est relaté dans l'article, mais on n'a même pas besoin de ça en réalité, parce qu'avec quelques informations, on peut facilement souvent trouver quelqu'un.
Merci Monique. On arrive à 6 heures. C'est un retour au travail quand même pas simple ce matin. Et on commence notre survol par la 40.